Bon, bonjour à tous. C'est enregistré. Donc normalement, vous devriez avoir accès.
Coucou, c'est enregistré sur le cloud?
Oui.
Ah, super. Bon, bah, bonne réunion.
Merci
Merci.
beaucoup, Hélène. Merci,
Merci.
Hélène.
Merci.
Ah d'accord, oui, j'avais un message d'Hélène que je n'avais pas vu. Alors, je ne suis pas fanat des cours par visio, hein, parce que ça manque considérablement de fluidité. Et puis, vous ne m'apparaissez comme, c'est la même chose pour vous, vous ne m'apparaissez que sous forme de petites vignettes. Et donc, c'est très difficile pour moi de mesurer ce qui passe et ce qui ne passe pas. Donc, pour moi, faire cours en visio, c'est pratiquement faire cours à l'aveugle, hein. Donc, je parle à un ordinateur en imaginant que ça passe à peu près, mais sans garantie. Du coup, c'est très insatisfaisant. Alors, j'en suis vraiment désolé. Mais pour que ça fonctionne d'une manière pas trop négative quand même, il faut fixer quelques règles. La première des règles, c'est que je vais désactiver tous les micros parce que ça fait un boucan d'enfer et on ne s'entend pas. Sauf que je ne sais pas comment il faut faire ça. Il doit y avoir un moyen pour désactiver tous les micros. Je vais trouver ça. Voilà, je vais trouver. Dès que je peux, je désactive tous les micros. Ah, j'ai désactivé le mien, ce n'est pas ce que je voulais. Bon, j'essaierai de trouver le système. La deuxième chose, si vous voulez vous mettre en écran noir, ça ne me dérange pas. Vous faites ce que vous voulez, ça ne me dérange pas du tout. Ensuite, j'essaierai de vous donner la parole à intervalles réguliers, j'essaierai d'y penser, mais vous ne m'interrompez pas, parce qu'alors là, ça va être une catastrophe pour moi. Donc, ne m'interrompez pas. En revanche, on a un chat, c'est-à-dire on a un onglet de discussion en français. Sur mon écran à moi, apparemment ça dépend des systèmes d'exploitation, mais sur mon écran à moi, le système de discussion apparaît en bas, au milieu. C'est une sorte de bulle comme pour les bandes dessinées. Il y a marqué discussion. Si vous cliquez dessus, il y a un volet qui s'ouvre sur la droite, et là vous pouvez poser des questions. Alors ça, utilisez cet outil sans retenue. Et même, ça m'arrangerait. C'est-à-dire, ça me permet de voir en direct si je vous largue, c'est-à-dire si je perds complètement le contrôle de la situation, c'est-à-dire si je pars dans des stratosphères et que vous êtes paumé, vous m'écrivez sur le chat en me disant, oulala, Père Sandra, ça ne va pas du tout, ça va trop vite, ou je ne comprends rien, ou OK? Voilà. Et puis, dernière chose, vous avez un autre outil qui vous permet de faire un petit signe, comme vient de faire l'une d'entre nous. Alors, pareil, sur mon système d'exploitation, ça apparaît en bas, c'est le petit onglet réaction. Si vous cliquez sur le petit onglet de réaction, vous avez plusieurs icônes qui apparaissent elles sont visibles pour tout le monde. Donc, par exemple, vous pouvez lever la main. Et lever la main, ça veut dire vous demander la parole. Voilà. Là, par exemple, il y a une personne qui a demandé la parole, c'est Odette Moret de Rocheprise. Voilà. Alors, du coup, ah, elle ne la demande plus. Mais ça, c'est très utile pour moi. Donc, si vous voulez poser une question, intervenir oralement, vous utilisez cette méthode-là. Je repérerai qu'il y a une main levée. Et à un moment où je pense que c'est possible dans mon développement, à ce moment-là, je vous cède la parole en vous interpellant, en vous disant, je vois que telle personne a levé la main, je vous donne la parole. À ce moment-là, il faut penser à rebrancher le micro. Voilà. J'espère que c'est à peu près clair pour tout le monde. Et nous démarrons. Donc, nous devons terminer le cours 4 et faire un cours de conclusion qui est le cours 5. Je vais partager l'écran pour avoir accès à la vidéoprojection. Alors, il y a peut-être un temps de latence. Chez moi, ça y est, le partage est lancé. Il n'est pas dit que ce soit tout de suite visible sur vos écrans. Il y a parfois un petit temps de latence de quelques secondes, de quelques dizaines de secondes. Donc, la fois précédente, nous nous sommes arrêtés aux scénographies, je n'y reviens pas. Juste un résumé de ces choses-là, mais très simple. Les scénographies, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que loin que les évangiles aient eu pour préoccupation de nous donner les minutes des journées de Jésus dans une rigueur chronologique exemplaire, sans s'affranchir complètement de toute chronologie, ils nous ont restitué une digestion théologique de ce qui s'est passé. Et donc, quand nous lisons les évangiles, nous lisons un document qui a une qualité historique, ça c'est indubitable, mais ce n'est pas un document d'historien. Cela a une qualité historique. Vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais pris l'image de la pêche bien mûre, ou de la mangue bien mûre, fruit dont on peut sentir l'épais noyau ou à travers la chair du fruit quand cette chair est bien mûre. Il y a quelque chose comme ça dans les évangiles. À travers la chair du texte évangélique, qui est une chair très théologique, vous sentez le noyau dur des faits historiques, mais vous n'y avez pas accès en direct. Voilà. Alors, je vous avais donné un exemple, je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'était l'exemple de la pêche miraculeuse. Quand la pêche miraculeuse a-t-elle eu lieu? C'est impossible à déterminer désormais, parce que la pêche miraculeuse, que ce soit chez Luc ou que ce soit chez Jean, elle fait désormais partie d'un discours qui est théologique avant d'être chronologique. Donc la pêche miraculeuse chez Luc, elle a à voir avec l'appel des premiers disciples. La pêche miraculeuse chez Jean, elle a à voir avec la résurrection. Et vous voyez que les choses ne s'excluent pas. Le phénomène, enfin, les apparitions des ressuscités, c'est aussi un appel, hein. Quand le ressuscité se manifeste aux disciples, il les appelle à nouveau, si je puis dire. Et même, il accomplit l'appel premier. Donc, ce n'est pas du tout antinomique, ce n'est pas du tout contradictoire. N'empêche que vous voyez bien que quelque chose qui est de nature événementielle, quoi exactement, même ça, c'est difficile à savoir. Mais quelque chose qui est de nature événementielle est immédiatement saisi à partir d'une théologie. Ça, c'était pour les scénographies. On prolonge ce point avec ce que j'ai appelé les lignes d'accomplissement. En fait, le point 3 et le point 4 sont très articulés. Je vais vous montrer qu'il y a, alors les lignes d'accomplissement, l'expression est de moi. Je vais vous montrer qu'il y a dans le Nouveau Testament un procédé d'écriture qui consiste à rédiger le texte évangélique en le situant dans le prolongement de ce qui a précédé dans l'Ancien Testament, mais un prolongement de telle sorte que, vous y êtes habitué désormais, il y a comme une explosion de ce qui a été convoqué. Et je vais vous montrer dans le point 4 que c'est aussi comme ça que la liturgie procède avec l'Évangile. C'est-à-dire, de la même manière que l'Évangile procède avec l'Ancien Testament, la liturgie procède ainsi avec le Nouveau Testament. C'est-à-dire que on cherche le trait qui a été dessiné par le rédacteur inspiré, par l'écrivain sacré, on cherche le trait et on le prolonge. On va voir ça concrètement. Ah. Voilà. Alors, chez moi, ça bug. Je n'arrive pas à passer à la diapositive suivante. Pourquoi? Ça y est. Alors, on va prendre un exemple, celui de Moïse. Donc, je vais vous montrer que le Nouveau Testament nous décrit Jésus à partir de Moïse prolongé. Donc, si vous voulez, c'est comme si on avait une sorte de dessin dans l'Ancien Testament qui dessinait la silhouette de Moïse. Et les rédacteurs du Nouveau Testament reprennent ce dessin, reprennent cette silhouette et l'enrichissent. Donc, les rédacteurs du Nouveau Testament se servent de cette silhouette comme d'un canevas, si je puis dire. Là, ou avec ce canevas, par-dessus, ils vont continuer de broder, ou si on veut continuer avec les arts graphiques, ils vont poser un calque par-dessus cette silhouette qui est celle de Moïse dans l'Ancien Testament, ils vont dessiner par-dessus. Et dans ce dessin fait par-dessus, vous avez quelque chose qui prolonge le dessin original, mais qui le prolonge de telle manière qu'il y a encore une fois explosion du dessin premier, c'est-à-dire que vous arrivez à quelque chose, vous arrivez alors que vous commenciez avec un calque, à l'arrivée, au point d'arrivée, vous avez un dessin original. Vous êtes parti du modèle Moïse, ils ont dessiné selon un modèle, mais ça c'est le point de départ, mais au point d'arrivée, il y a quelque chose qui est original. Alors on va voir ça, on va prendre quelques exemples. Ici, je vous ai fait un inventaire de quelques éléments qui dessinent ensemble la silhouette de Moïse et de Jésus dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Alors, par exemple, vous avez donc une liste à puces là sous les yeux avec le partage d'écran. Alors, ce n'est pas du tout exhaustif, hein. Bon, par exemple, Moïse comme Jésus sont des personnalités qui sont suivies par une foule. Premier élément. Deuxième élément, il va y avoir le passage de la mer par Moïse. Et dans le Nouveau Testament, ça va être repris sous la forme de passage à travers la mort et le péché, c'est-à-dire le baptême. Alors, ça, c'est très net en Romains 6, par exemple. Ou bien, Moïse va passer la mer, hein, donc le peuple va être libéré de la captivité ou de l'esclavage auquel Pharaon l'a réduit. Le peuple va être libéré de cet esclavage par Moïse en passant la mer, en traversant la mer. Et évidemment, vous avez une restitution de cela avec Jésus, qui alors lui, carrément, marche sur les eaux. Vous voyez, donc c'est dessiné par-dessus le dessin de Moïse, et vous voyez bien qu'on va plus loin. On va plus loin en traversant la mort, ça c'est le point précédent, qu'en traversant la mer, et on va plus loin en marchant sur les eaux qu'en étendant les bras comme Moïse l'a fait, en fendant la mer en deux. Voilà. Le peuple est passé à pied sec. Jésus a marché sur l'eau. Voilà. Donc on cherche à vous dire, c'est la même chose en encore mieux. Normalement, vous devez percuter. Le cours précédent, je vous ai parlé d'un schéma général. Ce que Dieu a fait, il le fait encore, il le fera en mieux. Vous voyez, je viens d'utiliser ce schéma. Moïse a étendu les bras et à sa demande, à sa requête, Dieu a fendu la mer en deux et le peuple a passé à pied sec. Jésus refait ça en mieux, c'est-à-dire il marche carrément sur l'eau. Et évidemment que le deuxième point, passer à travers la mort, et le troisième point, marcher sur les eaux, il est évident que le troisième point est une image du deuxième. Vous savez que dans l'Ancien Testament, la mer, et dans le Nouveau aussi, c'est très net dans le livre de l'Apocalypse, la mer est un des symboles, une des choses que la mer symbolise, c'est le mal. Et bien, Jésus ne passe pas simplement à travers le mal, il le domine complètement, il marche dessus. Voilà. Il est évident que la marche de Jésus sur les eaux est une annonce de la résurrection. Encore, Jésus a donné l'étape de la loi. Moïse a donné l'étape de la loi. Jésus a donné quoi ? L'Esprit Saint. Encore, le visage de Moïse était transfiguré. Jésus, il a été tout entier transfiguré, y compris ses vêtements. Il n'y a pas simplement un effet quantitatif, il y a un effet qualitatif. Par exemple, dans les récits de la transfiguration de Jésus, il y a le côté scénographique. On va vous dire, ce n'est pas simplement le visage, c'est le corps tout entier, et puis même carrément les vêtements. Ça, c'est l'aspect quantitatif. Et cet aspect quantitatif, on vous indique qu'il a une dimension qualitative, c'est-à-dire que le Père parle, comme au baptême. Il lui dit, celui-ci, écoutez-le, ce que Dieu n'a pas fait pour Moïse. On continue de dérouler notre inventaire. Moïse, dans le désert, va sceller une alliance avec le peuple, avec le sang d'un animal sacrifié. Jésus va instituer l'Eucharistie en disant, voici l'alliance nouvelle, et il s'agit de son sang à lui. Ou encore, le miracle de la manne dans le désert, Jésus va multiplier les pains. Ou encore, le mât d'airain dans le désert. Vous savez qu'à un moment, pendant l'Exode, le peuple est assailli par des serpents très agressifs, très venimeux. Et Moïse va prier pour demander à Dieu de les libérer de cette épreuve. Et la solution va venir sous la forme étrange d'une sorte de mât en airain que Dieu demande à Moïse de fabriquer. Et donc, c'est une solution étrange parce qu'elle n'épargne pas au peuple d'être mordu par les serpents, mais elle épargne les conséquences de la morsure. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un membre du peuple était mordu par le serpent, il lui suffisait de tourner les yeux vers le mât pour être sauf, c'est-à-dire pour ne pas subir les conséquences de la morsure. Donc, évidemment, en terrain chrétien, c'est très évocateur pour nous, hein. Jésus nous a sauvés d'une manière qui ne nous épargne pas les épreuves, par exemple. Hein. Par exemple, Jésus nous a sauvés de la mort, mais nous allons mourir. Bon. Et c'est précisément ce qu'entend nous faire comprendre le Nouveau Testament. Ici, c'est dans l'Évangile selon saint Jean, où Jésus lui-même annonce sa crucifixion comme de l'ordre de cette solution étrange fournie par Dieu à Moïse, c'est-à-dire il va se comparer au mât d'airain qui a sauvé le peuple dans le désert. etc., etc. Vous voyez dans le tableau, là, dans la fiche, je vous dis qu'on pourra enregistrer.
J'arrive avec les clés.
Alors là, j'entends quelqu'un qui a. Il faudrait que je supprime les micros parce que. Voilà. Parce que j'entends. Voilà, on n'entend plus. Et je ne sais pas, je n'arrive pas à supprimer le. Entre Teams, Zoom, Skype, etc., je ne sais plus toujours où sont les outils. Par exemple, pour couper les micros de tout le monde. Mais bon, là, je crois que c'est rentré dans l'ordre. Alors, il faut aller dans participants. Ouais. Ah, c'est ça. Clac, voilà. Hop, tout le monde est muet. Donc voilà, ici, avec l'inventaire que nous venons de traverser, vous avez normalement, je crois, une petite idée de ce que j'entends par ligne d'accomplissement, ou une petite idée aussi de la manière que j'avais eu, la manière imagée, c'est le cas de le dire, que j'avais eu d'expliquer ce que j'entends avec cette locution de ligne d'accomplissement en prenant l'exemple du calque. Voilà. Donc on prend des éléments qui correspondent bien à la description de Moïse. On va les appliquer pour décrire Jésus, mais ce faisant, les éléments mobilisés vont être considérablement, plus qu'enrichis, hein, vont être considérablement réélaborés. Alors voilà, toujours le même problème que tout à l'heure, je n'arrive pas à passer. Voilà. On va prendre juste un exemple plus précis. Je ne vais pas vous montrer sur pièce. Chacun des textes du Nouveau Testament qui illustrent les éléments de l'inventaire précédent. Hein. Par exemple, je ne vais pas vous parler aujourd'hui de la transfiguration, je ne vais pas vous parler de la multiplication des pains, je n'aurai pas le temps. Enfin, en revanche, j'ai pris quand même un exemple pour qu'on voit ça d'un peu plus près, c'est la manière dont Jésus enseigne sur la montagne. Je crois qu'on en a déjà parlé en cours. Et la manière dont Jésus enseigne sur la montagne est un remake. Est une reprise, est une citation réinterprétante de la manière dont Moïse se tient sur la montagne en Exode 24. Alors, on va d'abord aller voir Moïse. Vous avez le texte sous les yeux. Le Seigneur dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et demeure là, que je te donne les tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva, ainsi que Josué son serviteur, et ils montèrent à la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Vous avez avec vous Aaron et Hur, que celui qui a une affaire à régler s'adresse à eux. Donc ici, Dieu, dans sa grande prévenance, n'est-ce pas, règle l'intérim. Puis Moïse monta sur la montagne. La nuée couvrit la montagne. La gloire du Seigneur s'établit sur le mont Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Petite parenthèse, cet élément de la nuée qui arrive, vous aurez quelque chose de cela dans les récits de la transfiguration de Jésus. Je ferme la parenthèse. L'aspect de la gloire du Seigneur était aux yeux des Israélites celui d'une flamme dévorante au sommet de la montagne. Moïse entra dans la nuée et monta sur la montagne, et Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Maintenant, on va en Matthieu 5. Et voilà ce qui se passe. Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, vous avez une sorte d'introduction dans le récit. Qui est tout à fait, essayez d'imaginer, c'est tout à fait improbable. Je ne sais pas si vous sentez à quel point c'est improbable. On vous représente ici la montagne comme une sorte de piédestal que Jésus utilise pour mieux se faire entendre. Et vous voyez que c'est improbable. Vous ne pouvez pas imaginer Jésus au sommet de la montagne parlant à une foule qui est en bas. En fait, vous avez ici comme introduction narrative exactement la même chose. Mais sauf que là, c'est beaucoup plus plausible. Quand on vous dit quelque part que Jésus préempte. Confisque la barque de Pierre pour aller sur le lac pour enseigner la foule qui lui fait face sur le rivage. Vous avez quelque chose du même ordre. Voilà. Donc Jésus se retourne, voit la foule et monte sur la montagne. Et si vous essayez de dessiner ce qui vous est ici décrit, vous avez presque l'impression d'une toute petite montagne qui est une sorte de petit piédestal, de socle, et puis la foule est tout autour. Et évidemment que c'est pas ça. Enfin, comment dire? L'image ici est utilisée. Pour nous faire comprendre autre chose, c'est-à-dire pour nous faire comprendre que Jésus, c'est le nouveau Moïse, c'est-à-dire celui qui conduit le peuple à travers Le désert, alors ici on n'est pas dans le désert de l'Exode, mais on est dans le désert que serait notre existence si Jésus n'était pas venu à nous. Prenant la parole, je continue la lecture, il les enseignait en disant, Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux, heureux les affligés, etc. Et vous avez les béatitudes, et qui se terminent par à cause de moi. Alors c'est tout à fait stupéfiant par rapport à Moïse, c'est-à-dire que Jésus, à la différence de Moïse, parle à la première personne, alors que Moïse répète les paroles de Dieu. Je dis la même chose autrement. Jésus dit la parole de Dieu en parlant à la première personne, c'est-à-dire qu'il n'est pas un porte-parole comme l'est Moïse, mais il est la parole de Dieu en personne, il l'est lui-même. Bon, même chose, peut-être encore un dernier exemple, alliance avec le sang, et puis après on passera. Donc, on passera à la suite. En Exode 24, toujours le livre de l'Exode, vous avez le scellement de l'alliance opéré par Moïse liturgiquement à l'aide du sang. Voilà ce que ça donne. Moïse prit la moitié du sang et l'a mis, cette moitié, dans les bassins. Et l'autre moitié du sang, il la répandit sur l'autel. Il prit le livre de l'alliance et il en fit la lecture au peuple qui déclara, Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous y obéirons. Moïse, ayant pris le sang, le répandit sur le peuple et dit, Ceci est le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous, moyennant toutes ces clauses. Vous entendez que l'imaginaire mobilisé ici, il est double. C'est un imaginaire rituel, voilà, c'est un rite de purification, hein, le rite d'aspersion avec du sang. Donc vous avez un imaginaire rituel de type absolutoire, voilà, c'est-à-dire qui relève de la purification et de la purification qui vous habilite à vous tenir devant Dieu. Vous avez aussi un imaginaire contractuel. Notamment, vous avez le vocabulaire des clauses. Et le livre de l'Alliance a été lu, et il s'agit d'obéir aux clauses du livre de l'Alliance. Et ici, le sang prend une autre dimension, c'est-à-dire que vous vous engagez sur votre vie avec les clauses, à propos des clauses en question. C'est-à-dire, le contrat ici ne vous engage pas matériellement seulement, ou d'abord. Il vous engage vitalement. Vous répondez de votre vie. Le peuple ici répond de sa vie quant à l'engagement qu'il prend devant Dieu de respecter les clauses de l'alliance. Voici ce que ça donne dans le Nouveau Testament. Toujours un problème pour passer à la planche d'après. Je ne sais pas pourquoi. Or, Matthieu 26, tandis qu'il mangeait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant, Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant, Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Alors vous entendez de nouveau la dimension absolutoire, hein, le sang répandu pour la rémission des péchés. Il y a une allusion au rite de propitiation dont on a déjà parlé dans un cours précédent. Donc il y a aussi un imaginaire rituel par derrière, mais qui est assez discret. Et vous n'avez plus la dimension contractuelle. La dimension contractuelle, et il ne s'agit pas de s'engager sur la base d'un ensemble de clauses. Alors, vous n'avez pas ici la dimension contractuelle, elle est remplacée par la dimension relationnelle. Il s'agit de manger le corps et de boire le sang de l'individu qui parle là, Jésus. C'est-à-dire qu'il s'agit de nouer avec lui une relation incroyablement intime. Incroyablement intime. Il y a une relation de communion de lui à nous et de nous à lui. Qui est absolument inédite, inouïe. Pourquoi est-elle inédite et inouïe? Parce que cette communion qui se joue corps à corps et sang à sang est une communion, pardon, qui n'est pas la communion au reste d'une vie qui a disparu et on communierait à un cadavre. On communie à Jésus vivant. C'est-à-dire notre relation. La présence de Jésus vivant à nous, vivant en nous, la présence en nous de Jésus vivant se joue corps à corps, sang à sang. C'est absolument inédit, hein? Voilà. Donc voilà ce que j'appelle les lignes d'accomplissement, c'est-à-dire on prend quelque chose qui existe déjà, une figure tutélaire, Moïse, et pas seulement une figure tutélaire, mais des actions de cette figure tutélaire qui sont des actions inaugurales ou fondatrices. Ou des actions qui sont des actions qui sont de l'ordre de la référence. Le passage de la mer, l'enseignement sur la montagne, l'alliance scellée dans le sang, etc., etc., etc. La manne. On prend tout ça et on va prolonger tout cela pour dire Jésus. Mais encore une fois, le résultat obtenu, c'est beaucoup plus que Moïse. Alors j'ai pris Moïse, mais vous pouvez faire la même chose avec Joseph, vous pouvez faire la même chose avec Abraham, vous pouvez faire la même chose avec Noé, vous pouvez faire la même chose avec une quantité impressionnante de scènes fondatrices de l'Ancien Testament. C'est impressionnant. Vous pouvez vous amuser d'ailleurs à le faire par vous-même. Une fois qu'on a compris le procédé, ce n'est pas très compliqué à repérer. Hein. Puis vous avez les notes dans vos Bibles en marge et les notes de bas de page. En marge, vous avez les références intratextuelles. C'est on vous dit, ah bah tiens, là il faut aller regarder en Lévitique 4, là il faut aller regarder en Exode 14, là il faut aller regarder en Isaïe 54, etc. Donc dans les marges, vous avez les références intratextuelles, c'est-à-dire la liste des échos les plus audibles dans le passage concerné du Nouveau Testament. Et puis, en note de bas de page, vous avez plus. Donc, vous pouvez tout à fait, en vous aidant des marges et des notes de bas de page, prolonger l'exercice. Ce qui me reste à vous montrer, c'est que la liturgie fait la même chose, c'est-à-dire comme la Bible, dont l'un des procédés d'écriture consiste en ces lignes d'accomplissement, c'est-à-dire en ce dessin prolongé et dans le prolongement, le dessin s'en trouve enrichi jusqu'à devenir original, eh bien, la liturgie fait la même chose. Je vous ai pris un exemple, je vous ai pris la préface de la fête de la Croix Glorieuse, qui est une fête qui tombe au mois de septembre. Voici ce que dit la préface de cette fête. « Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. » Alors ça, c'est l'introduction de toutes les préfaces. Et maintenant, écoutez bien, c'est le deuxième paragraphe qui compte. « Car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain. » Bon, donc le salut du genre... Qu'est-ce qui est attaché au bois de la croix? Le salut du genre humain. De quoi parle-t-on? En fait, la bonne question, c'est de qui parle-t-on? C'est Jésus. C'est bien Jésus qui est attaché au bois de la croix. Que rencontre-t-on sur le bois de la croix, attaché à ce bois de la croix? Le corps de Jésus. Bien. Je poursuis la lecture. Pour que la vie surgisse à nouveau d'un arbre qui donnait la mort. Oh là 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 là! De quoi parle-t-on? Ici, pof, on est passé au chapitre 3 du livre de la Genèse, et il s'agit de l'arbre de la connaissance dont Dieu avait interdit le fruit à Adam et Ève, et dans leur désobéissance, sous peine de mort. Vous vous rappelez de ça, hein, Genèse 3. De cet arbre-là, tu ne mangeras pas, ou sinon tu mourras. Et donc, on a identifié, en se servant de l'élément matériel qui est le bois, en se servant du matériau, la croix de Jésus, elle est de bois. Et l'arbre de la connaissance de Genèse 3, bah forcément, c'est un arbre, donc le matériau est le même. Il s'agit du bois. En se servant de la communauté matérielle, au sens très fort, hein, en se servant du fait qu'il s'agit du même matériau, le bois, il y a identification de la croix avec l'arbre de Genèse 3. Donc, la croix du Golgotha, c'est l'arbre de la connaissance de Genèse 3. On continue. Pour que la vie surgisse à nouveau d'un arbre qui donnait la mort et que l'ennemi victorieux par le bois, là, il s'agit du serpent qui a utilisé l'arbre de la connaissance pour tromper Ève et Adam. Donc, pour que l'ennemi victorieux par le bois fût lui-même vaincu sur le bois par le Christ, notre Seigneur. Alors, la question est, mais de quelle manière l'ennemi, donc le serpent, est-il vaincu sur le bois par le Christ? Eh bien, ici, il faut poursuivre le prolongement suggéré par la préface. Eh bien, je vous rappelle que c'est une préface, hein, c'est-à-dire c'est ce qui précède la consécration eucharistique. Donc, juste après ce texte, il va y avoir la consécration du pain et du vin sur l'autel qui vont devenir l'Eucharistie, le corps et le sang de Jésus. Et après la consécration, il va y avoir le Notre Père. Et après le Notre Père, il va y avoir la communion eucharistique. Donc, de quelle manière Jésus a-t-il vaincu l'ennemi? En se donnant précisément comme le fruit qui désormais nous est accessible. Donc, on passe de Genèse 3 où Dieu dit « Tu peux manger de tous les fruits sauf celui-là » à Jésus qui, au moment de l'institution de l'Eucharistie, nous dit « Prenez et mangez-en tous ». Donc, le fruit qui était défendu en Genèse 3, désormais est offert. Et ce qu'il ne fallait pas manger en Genèse 3, ce n'était pas parce que c'était interdit pour toujours, c'est parce que ce n'était pas encore le moment. Adam et Ève ont juste anticipé de trop. Ils ont manqué de patience. Et désormais, le fruit est offert. Et c'est parce que désormais le fruit est offert, et ce fruit, c'est Jésus lui-même, qui nous offre la connaissance par excellence. Et quelle est cette connaissance par excellence? C'est d'être fils avec lui du Père, c'est-à-dire c'est de recevoir l'Esprit qu'il a en partage. C'est parce que ce fruit est désormais offert et consommé que l'ennemi est vaincu. On lui a carrément subtilisé l'instrument dont il s'était servi pour nous nuire, en supprimant l'interdit. Donc, vous voyez, la liturgie va utiliser le même procédé que le procédé utilisé par le Nouveau Testament pour s'écrire à partir de l'Ancien. Et je pourrais vous montrer, mais on n'aura pas le temps, que ce phénomène de prolongement de ligne d'accomplissement se trouve à l'intérieur de l'Ancien Testament lui-même. L'Ancien Testament lui-même avait déjà commencé de prendre des figures tutélaires et d'écrire à partir d'elles, ou plutôt des événements inauguraux et d'écrire par rapport à ces événements. Voilà. Et donc, la liturgie utilise le même procédé, et qui est un procédé qui non seulement nous donne accès à la révélation dont il s'agit avec les Écritures, mais actualise. Pourquoi actualise? Eh bien, parce que ce que la préface ici nous décrit, c'est à la fois la clé de ce qui se joue avec la résurrection de Jésus, mais c'est aussi son actualisation, puisque dans un instant après ce texte, il va y avoir un geste à poser, un geste actuel, qui est le geste de la communion eucharistique. Alors, je vous donne la parole. Je vous donne la parole, c'est-à-dire, j'arrête le partage d'écran pour vous voir davantage, et vous levez la main. Et c'est moi qui vous dis quand vous pouvez parler, en ayant repéré vos mains levées, pour que vous puissiez poser vos questions. Là, il ne faut pas ouvrir vos micros. Hein. J'en ai entendu qu'on ouvre les micros, donc je vais de nouveau passer tout le monde en muet. Parce que si vous ouvrez les micros, c'est une vraie pollution sonore pour tout le monde. Donc, il ne faut pas ouvrir vos micros. En revanche, il faut lever la main et je vous donne la parole. Personne ne lève la main? Ah, il faut lever la main avec le petit outil là. Hein. Le petit outil qui se trouve à côté d'écran partagé et qui s'appelle réaction. Alors, une fois, deux fois, trois fois. Bon, personne n'a levé la main, je fonce. Donc, je restaure le partage d'écran. Ah, Monsieur Durieux, vous avez levé la main ou pas, Monsieur Durieux? Oui, alors mettez votre micro et parlez. Alors, il faut lever la main avec le petit outil, parce que c'est beaucoup plus visible pour moi. Si vous levez la main avec le petit outil réaction, je le vois beaucoup mieux que si vous levez la main devant la caméra. Mais Monsieur Durieux, je vous ai vu, donc... À vous la parole.
Oui, vous est-il possible, Père, de parler un peu plus fort et un peu moins vite?
Merci. Ah, ok. Un peu plus fort. Pourtant, j'ai l'impression de brailler, mais je vais essayer de parler un peu plus fort et un peu moins vite. Je vais essayer aussi, même si l'instrument visio induit une accélération du rythme. Mais je vais essayer de parler moins vite. Je restaure le partage d'écran pour que nous continuions. Alors, nous allons finir le cours 4 avec le petit prolongement habituel. Voilà. Le petit prolongement, il n'est pas tout à fait comme d'habitude. Normalement, je fais un prolongement trinitaire et christologique. Ça va venir, mais il va y avoir un truchement pour une fois. Le truchement, c'est une citation. C'est une citation du catéchisme de l'Église catholique au numéro 108. Vous avez normalement le texte sous les yeux, ou si vous ne l'avez pas encore, encore quelques secondes de patience, il va apparaître. Voilà. Donc voilà ce texte. Hop. Cependant, la foi chrétienne n'est pas une religion du livre. Le christianisme est la religion de la parole de Dieu, non d'un verbe écrit et muet, mais du verbe incarné et vivant. Pour qu'elle ne reste pas lettre morte, il faut que le Christ, parole éternelle du Dieu vivant, par l'Esprit Saint, nous ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures. Alors, ce texte est capital. Il rend absolument impossible des affirmations du type « qu'est-ce que la révélation ? C'est ça. » Et ici, je vous montre ma Bible. Ce n'est qu'une partie de la réponse. Parce que si j'en reste là, en disant « qu'est-ce que la révélation ? C'est ça », je manque l'intelligence de ce texte, de ce sur quoi le texte que vous avez sous les yeux du catéchisme de l'Église catholique attire notre attention, à savoir la dimension relationnelle de la révélation, qui du coup ne me renvoie pas d'abord à un texte écrit, mais me renvoie à une personne vivante, le Christ, dont expérience est faite actuellement, précisément dans l'Esprit Saint. Voilà. Et là, vous avez à la fois le prolongement christologique, c'est-à-dire Jésus est le modèle de la révélation, il est la révélation. Et vous avez le modèle trinitaire, c'est-à-dire ce n'est possible, l'énoncé que je viens de faire n'est possible au présent de l'indicatif que parce qu'il y a l'Esprit Saint. Et à partir du moment où j'ai Jésus et l'Esprit Saint, j'ai la Trinité. C'est l'Esprit Saint qui me permet d'avoir un contenu existentiel à des énoncés comme Jésus est vivant maintenant. Et donc, quand je lis le Nouveau Testament, je ne lis pas seulement un rapport concernant des événements qui relèveraient tout entier du passé, mais je lis un témoignage normatif pour comprendre ce que Jésus fait maintenant pour moi. Je développe. Jésus, jadis, a multiplié les pains. Aujourd'hui, de quelle manière multiplie-t-il les pains pour moi, pour nous ? Et il y a plusieurs réponses possibles. Jésus, jadis, a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. De quelle manière Jésus a-t-il mis en œuvre cette puissance de résurrection aujourd'hui, pour moi, pour nous, etc. On retrouve à nouveau notre schéma, c'est-à-dire ce que Dieu a fait, il le fait encore aujourd'hui, il le fera encore en mieux. Voilà pour le prolongement. Le cours 4 est terminé. Ce que je vous propose maintenant, c'est que nous regardions ensemble, je vous avais demandé de le faire avant les vacances. Avant les vacances, je vous avais demandé de lire tous les résumés des cours 1, 2 et 3. On va lire ensemble les résumés en question. Et ensuite, je passerai au cours de conclusion. Et le cours de conclusion s'achèvera par un résumé des cours 4 et 5. Alors, nous allons commencer par le cours numéro 1. Il faut que j'interrompe le partage d'écran en cours. Alors, écran partagé. Résumé cours 1, c'est où ? Voilà. Alors, normalement, vous l'avez, ou si ce n'est pas le cas, vous allez l'avoir dans un instant. Alors, moi, j'ai les... Alors, moi, j'ai un problème, c'est que vos vignettes m'empêchent de lire le texte. Vos vignettes sont par-dessus le texte. Bon, alors comment je vais faire? Je vais me débrouiller autrement. Je vais le lire ailleurs, du coup. Excusez-moi, hein, et comme vous m'empêchez de lire le texte, je suis obligé de l'ouvrir sur un autre support pour pouvoir y avoir moi-même accès. Voilà, ça y est. Alors, le résumé du cours 1 nous disait ceci. La révélation, qu'est-ce à dire ? L'étymologie du mot révélation et la révélation chrétienne telle qu'elle se comprend ne correspondent qu'imparfaitement. Il y a dans la révélation chrétienne une nouveauté que l'étymologie du mot révélation ne fait pas entendre et une absence d'évidence que la même étymologie affirme. Donc, vous rappelez bien de ça, hein, c'est par là que nous avions commencé. Si par révélation, je devais entendre seulement ce que dit l'étymologie du mot, alors à ce moment-là, le christianisme n'est pas une révélation. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus que cela. Et pourquoi est-il beaucoup plus que cela ? Eh bien, à cause de sa nature relationnelle, qui est précisément le point auquel nous avons abouti il y a un instant. Voilà. C'est-à-dire, le christianisme n'est pas une religion du livre. Je poursuis la lecture. La révélation chrétienne est de nature relationnelle et pas seulement de nature informative, ce qui suppose le paradoxe maintenu du voilement-dévoilement dont toute relation dépend. Toute relation est dynamique, suppose cet approfondissement poursuivi de la relation elle-même et donc de la connaissance réciproque. Je poursuis. Ainsi, la révélation est achevée, close, et pourtant l'énigme est maintenue. Il s'agit d'un chemin, d'une expérience relationnelle en progrès. La révélation est donc à la fois achevée et ouverte. Elle ouvre un parcours singulier et collectif, collectif et singulier. Un des aspects de cette ouverture, ce sont précisément les lignes d'accomplissement dont je vous ai montré non seulement qu'elles sont un procédé d'écriture de la Bible, mais qu'elles sont aussi un procédé liturgique. Et si elles sont un procédé liturgique, c'est parce qu'elles relèvent d'une réalité spirituelle qui est la nôtre. Voilà. Et quelle est cette réalité spirituelle ? Celle par laquelle j'ai conclu tantôt, c'est-à-dire Jésus a multiplié les pains dans les évangiles, de quelle manière les multiplie-t-il pour nous, pour moi, aujourd'hui ? Voilà. Ça, c'était le résumé numéro 1. On va lire le résumé numéro 2, si j'y arrive. Alors, hop, arrêtez, clac, partage d'écran. Le voilà. Alors, pareil, il faut que je l'ouvre ailleurs parce que vos vignettes me le cachent. La révélation chrétienne est de nature relationnelle et pas seulement de nature informative. Ça, c'était le résumé du cours 1. Elle requiert de notre part une réception active, une adaptation, une compréhension. Irénée de Lyon nous a donné des formulations éclairantes concernant cette accommodation du regard à la révélation. Par exemple, la discrétion au sens de juste mesure, la règle de la foi, c'est-à-dire la règle comme instrument pour construire et pas comme gabarit, hein. La succession épiscopale, moins comme hiérarchie que comme garantie d'un contact avec la source. Surtout, Irénée est attentif à l'acte de réception active, à l'opposé des démarches qui ne lisent plus le texte selon son intention propre, comme les lectures exclusivement symbolistes. Donc, il s'agit d'entendre ce que le texte, en mobilisant une expérience, une intuition, une affinité, une familiarité avec ce dont il s'agit. Donc, de quoi s'agit-il ? Eh bien, de ce que Dieu fait maintenant. Ces points d'attention nous ont permis deux choses. Un, revenir au texte biblique et constater qu'il procède à des reconfigurations radicales de notions clés, loi, bénédiction, malédiction, salut, etc. Et aujourd'hui, nous sommes allés plus loin. Il procède à des reconfigurations radicales de personnalités tutélaires et d'événements inauguraux. Je poursuis la lecture du résumé, ouvrant ainsi un chemin pour nous aussi. Et on a vu qu'un aspect de cette ouverture du chemin pour nous, c'est la dimension liturgique et spirituelle. Et puis, ça permet une deuxième chose, appréhender avec plus de recul et de sérénité le dialogue science et foi. Pourquoi ? Parce que le premier point situe la nature de la vérité de la révélation. Bien sûr que la révélation est vraie, mais la nature de la vérité en question n'est pas du même ordre que la nature de la vérité scientifique ou que la vérité de nature scientifique. Voilà. Ça, c'était le cours 2. Et maintenant, le cours 3. Clac. que vous avez sous les yeux. Pas moi, mais ça va venir. La Bible et le christianisme sont profondément enracinés dans le fait religieux général. Ils en relèvent qu'il s'agisse des sources, des thèmes, des schémas ou de l'anthropologie. La Bible est consciente d'avoir à discerner entre différentes formes religieuses et elle sait réaménager très fondamentalement ce qu'elle utilise du religieux pour dire quelque chose de singulier. La révélation, comment la sait-on ? On la sait à partir de son intériorité propre, la sienne, hein, à chacun de nous, à partir de la religiosité, qui est un fait humain. On la sait enfin à partir d'un récit singulier, le Nouveau Testament en particulier, qui reconfigure ce qui précède en lui faisant dire quelque chose d'inédit. L'être, alors par exemple, si, on va donner à entendre ce que je dis là en renvoyant à ce que nous avons médité tantôt avec Moïse. L'attente d'un sauveur, c'est une attente probablement qui relève de l'anthropologie générale, d'une anthropologie culturelle, religieuse certainement, mais pas seulement. Voilà. Ce qui entraîne d'ailleurs des dévoiements politiques possibles. Les totalitarismes sacralisent le pouvoir politique, voilà. Ou utilisent plutôt la référence sacrale du sauveur, référence qui est disponible dans l'anthropologie générale. Donc, l'attente d'un sauveur, c'est probablement quelque chose qui relève d'une anthropologie générale. Comment sait-on que Jésus est sauveur ? À partir de son intériorité propre, c'est-à-dire comment me sauve-t-il, moi ? À partir de la religiosité, c'est-à-dire cette attente humaine générale d'un sauveur, de quoi relève-t-elle ? Et surtout, à partir d'un récit singulier qui reconfigure ce qui précède en lui faisant dire quelque chose d'inédit. Alors là, dans le cas présent, c'est tout à fait spectaculaire. Jésus est ce sauveur qui me sauve en échouant. Jésus a été condamné à mort et il est mort. Alors il est ressuscité, mais il est ressuscité de cette manière qui ne répare pas l'échec dont je viens de parler. Pourquoi ? Eh bien parce que le ressuscité ne se manifeste qu'aux disciples. Par exemple, le ressuscité ne se manifestera pas à Pilate, ne se manifestera pas à Hérode, ne se manifestera pas à Anne, ne se manifestera pas à Caïphe, ne se manifestera pas aux soldats romains. Voilà. Donc oui, c'est une victoire. C'est une victoire d'un tout autre ordre que ce que nous imaginerions spontanément. Donc, vous voyez la reconfiguration, elle est radicale. Hein. Donc oui, il y a une attente générale d'un sauveur, et Jésus, et cette attente générale est mobilisée par l'événement Jésus-Christ. Voilà. Pensez tout simplement, tout à l'heure j'ai parlé de la sacralisation du pouvoir politique. À plusieurs endroits, ça se voit dans les évangiles. Par exemple, l'entrée triomphale à Jérusalem, où Jésus a été acclamé, ou à un moment où Jésus se sauve, parce que nous dit l'évangile, juste après la multiplication des pains, Jésus se sauve parce qu'il savait qu'il voulait faire de lui leur roi. Jésus ne veut pas. Alors, donc on voit bien qu'il y a cette attente humaine, spontanée et générale, va servir de matériau de base pour dire plus. Sauf que le plus qui est à dire est très déroutant. Oui, Jésus est bien le sauveur attendu, mais de cette manière si singulière qu'elle est décevante, décevante par rapport aux attentes initiales, dont pourtant le texte, la révélation, va se servir pour nous amener plus loin. Je reprends la lecture du résumé du 13 décembre que vous avez sous les yeux, sauf que j'ai perdu la ligne. Voilà. L'être chrétien a son lieu dans une permanente explosion des catégories religieuses. Ben là, je viens d'en faire exploser une, hein, la catégorie de sauveur. Dans un cheminement où la réinterprétation et l'approfondissement alimentent un déploiement de la révélation et même un développement du dogme. Le déclencheur de cette explosion est identifié par la foi comme étant Dieu lui-même, Dieu prenant le visage de l'homme et se traduisant ainsi dans sa création radicalement assumée. Alors c'est à partir de là que nous commençons le cours numéro 5, qui est le dernier. Donc nous allons développer ce tout dernier point. C'est-à-dire le cours numéro 5, c'est nous cherchons à cerner le lieu de cette explosion des catégories, qui est aussi le lieu de leur approfondissement. Comment se fait, où ça se situe cet endroit où le matériau mobilisé va dire beaucoup plus que ce qu'il était spontanément capable de dire par lui-même. On vient de dire que le déclencheur, c'est Dieu lui-même, mais comment cela se passe-t-il pour nous? C'est ça que nous allons examiner dans le cours numéro 5. Avant que nous n'entrions dans le cours numéro 5, je vous donne la parole. Donc, levez les mains avec le petit outil qui s'appelle réaction, si vous avez des questions à poser. Madame Odette Moret de Rocheprise, mettez le micro et parlez-nous.
Oui, voilà, j'ai juste les dernières phrases de ce que vous venez d'expliquer. Là, j'ai mal compris le déroulement de la fin de ce résumé.
C'est-à-dire les... Pardon ?
J'aurais plus de détails pour mieux comprendre la fin du résumé.
Alors, à partir d'où ne comprenez-vous plus? Par exemple, quand je parle d'explosion des catégories, quand je donne l'exemple de Jésus est sauveur, est-ce que ça va jusque-là?
Oui.
Voilà. Ben, la fin du résumé, c'est tout simplement de vous dire, vous vous rappelez, j'avais déjà pris cette image antérieurement en cours, j'avais dit, mais nous tournons autour d'un lieu où ces reconfigurations dont nous ne cessons de parler s'opèrent, nous tournons autour de ce lieu. C'est-à-dire, vous vous rappelez de ça? Ben, voilà, c'est oui, juste ce que dit la fin du résumé. Le déclencheur de cette explosion est identifié par la foi comme étant Dieu lui-même.
D'accord.
Et c'est précisément ce que va développer le cours numéro 5.
D'accord, merci. J'enlève mon...
le micro.
Voilà. Et le micro...
Voilà. Pas d'autres questions? Alors nous passons au cours numéro 5. Alors. Voilà. Où est-ce que vous êtes? Vous êtes là. Partage d'écran. Voilà. Vous devriez le voir dans un instant. Voilà. Alors, j'ai un petit souci. Bon, c'est pas grave. Ah, voilà, ça y est, c'est réglé. Donc, voici le parcours du cours numéro 5. Donc, le titre, c'est « La révélation et l'Église ». Et le contenu, il va se faire en quatre étapes. Nous allons commencer, on va prendre des choses d'un peu loin aujourd'hui. Donc, je vous ai dit, hein, ce cours-là va précisément donner un contenu aux dernières lignes du résumé du cours 3, ce sur quoi d'ailleurs l'une d'entre vous a réagi à l'instant. Donc ça tombe bien. Donc c'est bien ce que je cherche à honorer, mais pour le faire, j'ai besoin de partir d'un peu plus loin. Donc la continuité avec ce qui précède ne va vous apparaître qu'après coup, pas tout de suite. Et nous allons commencer par le sensus fidei fidelium. Je vais traduire tout de suite. Le sensus fidei fidelium, ça veut dire, c'est très facile à traduire, hein, c'est du latin de cuisine, c'est le sens de foi des fidèles, est une donnée théologique très importante, c'est une donnée dogmatique, capitale, dont je vais beaucoup parler aujourd'hui. Et je vais commencer par vous en montrer l'actualité. Voici, je vous ai mis ici, sous les yeux, un extrait du Vademecum du Synode sur la synodalité. Donc, c'est dire si c'est actuel, parce que le Synode sur la synodalité est en cours. Il a commencé au mois d'octobre dernier et il va durer un peu plus de 2 ans. Et normalement, nous sommes entrés dans la phase locale du synode, c'est-à-dire que dans les communautés locales, chaque baptisé, et même au-delà des baptisés, est invité, s'il le souhaite, à participer à la réflexion générale de ce synode. Bien. En vue de du déroulement de ce programme de longue haleine, qui est le synode sur la synodalité, Rome, très exactement le secrétariat général des évêques, a produit un vademecum à l'intention des diocèses et des fidèles. Je vous ai mis sous les yeux un extrait de la page 10 du vademecum. C'est un document qui date de septembre dernier, septembre 2021, donc c'est très récent. Nous allons le lire ensemble. Le Concile Vatican II a ravivé le sentiment que tous les baptisés, tant la hiérarchie que les laïcs, donc tous les baptisés, sont appelés à participer activement à la mission, écoutez bien, salvatrice de l'Église. Vous vous rendez compte la portée de cette phrase? On ne vous dit pas, par exemple, sont invités à participer à la mission, ou mission ici serait comprise essentiellement comme catéchèse, c'est-à-dire comme information, comme annonce. On vous dit carrément la mission salvatrice. Il s'agit du salut du monde. Il s'agit, on parle de résurrection là. Je poursuis. Les fidèles, donc tous, la hiérarchie et les laïcs, tous, les baptisés, les fidèles, ont reçu l'Esprit Saint par le baptême et la confirmation et sont dotés de divers dons et charismes pour le renouvellement et la construction de l'Église en tant que membre du corps du Christ. Ainsi, le pouvoir d'enseignement du pape et des évêques est en dialogue avec le sensus fidelium, la voix vivante du peuple de Dieu. Alors, la voix vivante du peuple de Dieu, c'est une glose donnant un contenu à la locution latine « sensus fidelium ». C'est une glose relativement imagée et nous allons voir une définition un peu plus loin. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que tout de suite après cette glose imagée, la voix vivante du peuple de Dieu, vous avez une référence. Et la référence renvoie à un document qui s'appelle le Sensus Fidei dans la vie de l'Église. Ce document, le Sensus Fidei dans la vie de l'Église, le Vademecum, il renvoie au numéro 74. Hein. Ce document, le Sensus Fidei dans la vie de l'Église, est un document qui a été produit par la Commission théologique internationale en 2014. La Commission théologique internationale, c'est un organe romain qui dépend de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Voici un extrait de ce document. C'est la planche que vous avez désormais sous les yeux. Donc, quand je mets CTI, ça veut dire Commission théologique internationale, mais j'ai mis ensuite la date 2014, et cette date 2014 renvoie précisément, je suis revenu à la planche précédente, renvoie précisément au document qui est cité en référence par le Vademecum portant sur le synode sur la synodalité. Donc, c'est bien le document de la CTI intitulé « Le Sensus Fidei dans la vie de l'Église ». Donc, que nous dit CTI 2014 au numéro 76? Donc, je ne cite pas le même numéro que le Vademecum, j'en cite un autre, le numéro 76, parce que ce numéro 76 nous donne, pour le coup, une définition du Sensus Fidei Fidelium. Les fidèles, dit le document, sont dotés du sensus fidei, c'est-à-dire un instinct pour la vérité de l'Évangile. Et je ne vous ai mis qu'un court extrait, mais le document lui-même renvoie à un extrait de l'Évangile selon saint Jean que je vous ai mis juste en dessous. Voici cet extrait de l'Évangile selon saint Jean. « Celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis, le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix, et ses brebis à lui, il les appelle une à une, et il les mène dehors. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, elles le fuiront au contraire, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alors, pour définir le sensus fidei des fidèles comme un instinct pour la vérité de l'Évangile, le texte de la CTI renvoie à ce passage de l'Évangile selon saint Jean, où il est question de cette connaissance instinctive, intuitive, par les sens du bon pasteur, et évidemment le bon pasteur qui est-ce ? C'est Jésus lui-même. Je dis la même chose autrement, par le baptême et la confirmation, les fidèles reçoivent individuellement et collectivement la faculté de reconnaître Jésus à son odeur, au timbre de sa voix, à la qualité de sa présence. Et ce n'est pas une démarche d'abord spéculative et intellectuelle, c'est une démarche intuitive, instinctive. Je cite maintenant le numéro 74 auquel le Vademecum faisait référence. Et nous allons le lire ensemble et après nous ferons une petite pause. Le numéro 74, alors le document de la CTI est ainsi fait qu'il va définir le sensus fidei assez tardivement, alors qu'il va en donner les conséquences préalablement. Donc le numéro 74 vient avant la définition qui, elle, est dans le numéro 76, mais le numéro 74 vous donne les résultats de la définition qui va venir par après. Et c'est précisément ce passage-là qui est donné en référence, qui est évoqué par le Vademecum. Voilà ce qui est écrit. En matière de foi, les baptisés ne peuvent être passifs. Ils ne peuvent pas être passifs. Ils ont reçu l'Esprit, et en tant que membres du corps du Seigneur, ils sont dotés de dons et de charismes utiles au renouvellement et au développement de l'Église. Et ici, vous avez une référence qui est Lumen Gentium numéro 12. Lumen Gentium, c'est l'un des principaux documents du Concile Vatican II. C'est un document qui date de 1964. Donc, vous voyez, vous avez tout un tissu de relations. Hein. Le Vademecum, c'est septembre 2021. Le Sensus Fidei dans la vie de l'Église, c'est un document c'est un document produit par le secrétariat général des évêques à Rome. Ensuite, nous avons regardé un document. Le Vademecum renvoie un document de la Commission théologique internationale qui date de 2014. Le document de la Commission théologique internationale de 2014 renvoie à un texte de Vatican II qui date de 1964. Vous avez tout un tissu de relations et tout cela tourne autour de ce texte fondamental de Jean 10. Les brebis reconnaissent la voix du Christ et on pourrait développer sa voix, son odeur, la qualité de sa présence. Donc je reprends la lecture de CT 2014-74. Donc ils sont dotés, les fidèles, les laïcs, hein, sont dotés de dons et de charismes utiles au renouvellement et au développement de l'Église, en sorte que le magistère, donc ici c'est la hiérarchie, se doit d'être attentif au sensus fidelium, qui est la voix vivante du peuple de Dieu. Les baptisés ont non seulement le droit d'être entendus, mais leur réaction à ce qui est proposé comme appartenant à la foi des apôtres doivent être prises avec le plus grand sérieux, parce que c'est par l'Église tout entière que la foi apostolique est portée dans la puissance de l'Esprit. Le magistère n'en a pas la responsabilité exclusive. Celui-ci doit donc se référer au sens de la foi de l'Église tout entière. Le sensus fidelium peut s'avérer un facteur important dans le développement de la doctrine, et il s'ensuit que le magistère a besoin de moyens par lesquels consulter les fidèles. C'est très important. Et théologiquement, qu'est-ce que ça vous dit ? Ça vous dit ceci. L'Église n'est pas infaillible parce que le pape l'est. C'est l'inverse. Le pape n'est infaillible que parce que l'Église, au sens de peuple des baptisés, l'est. C'est parce que le peuple des baptisés possède le sensus fidei fidelium qu'il peut y avoir quelque chose comme une infaillibilité pontificale. L'infaillibilité pontificale n'est que la personnification ultime d'une infaillibilité qui est celle des baptisés. Donc, je répète, L'Église n'est pas infaillible grâce au pape. Le pape est infaillible grâce au baptisé. C'est très important, ça. Hein, et le texte que vous avez sous les yeux est extrêmement fort. Hein. Le magistère, je répète, hein, c'est une des dernières lignes du texte, le magistère n'a pas la responsabilité exclusive de ce que contient la foi apostolique. Vous vous rendez compte, hein, c'est énorme. Hein. Alors, une petite pause de 5 minutes et nous reprenons. On va repartir. J'espère que vous m'entendez. Oui. Oui. C'est reparti. Alors, on va aller justement regarder du côté du Concile Vatican II. On va aller regarder un extrait d'un Pacte de Lumen Gentium, on y viendra plus tard, mais de Dei Verbum, qui est un texte de 1965, un texte très important aussi du Concile Vatican II, au numéro 8. Voici ce qu'on y lit. Cette tradition qui vient des apôtres progresse dans l'Église sous l'assistance du Saint-Esprit. En effet, la perception des réalités, aussi bien que des paroles transmises, s'accroît soit par la contemplation et l'étude des croyants qui les méditent en leur cœur, soit par l'intelligence intérieure qu'ils éprouvent des réalités spirituelles, soit par la prédication de ceux qui, avec la succession épiscopale, ont reçu un charisme certain de vérité. Ainsi l'Église, tandis que les siècles s'écoulent, tend constamment vers la plénitude de la divine vérité, jusqu'à ce que soient accomplies en elle les paroles de Dieu. Alors, il y a deux ou trois choses que je veux remarquer. La première chose, c'est que le mot tradition ici englobe la révélation, englobe les écritures. Hein. Tradition ici, c'est au sens latin du mot, c'est-à-dire c'est un mot verbal, c'est le fait de transmettre. C'est la transmission de la révélation. Et on vous dit que la transmission de la révélation est dynamique, on vous le dit de plusieurs manières. D'abord, la première manière selon laquelle le dynamisme de cette transmission est affirmé, c'est que cette transmission n'est pas simplement un déplacement, une translation d'un contenu qui reste inchangé. Au fur et à mesure de l'acte de transmission, il y a un approfondissement qui s'opère. Vous voyez, vous avez le verbe « accroître ». La perception des réalités aussi bien que des paroles transmises s'accroît. Donc il y a un dynamisme. Et ce dynamisme, il est redoublé. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit à la fin que ce dynamisme nous met en attente d'une plénitude qui, elle, n'est pas de ce monde. Regardez les dernières lignes. Vers la plénitude de la divine vérité jusqu'à ce que soient accomplies en elle les paroles de Dieu. Ici, on vous parle du ciel. On ne vous parle pas de la terre. Et donc, le dynamisme, il est redoublé. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit, attention, il est illimité. Il est illimité ici-bas. En réalité, il le sera aussi au ciel. Même lorsque nous verrons la divine vérité, celle-ci étant insondable, nous ne finirons pas de l'approfondir. Et ça, c'est une parenthèse, je la ferme. Sur Terre, cet accroissement donc est illimité puisqu'il tend vers un accomplissement qui n'est pas de ce monde. Et donc, nous retrouvons le point de départ de notre cours. Et donc, de fait, il faut en convenir, la révélation chrétienne ne nous bascule pas du côté de l'évidence. Vous vous rappelez, on l'a revu à l'instant, hein, résumé du cours 1. On l'a revu à l'instant. Donc, l'étymologie du mot révélation, c'est j'enlève le voile et je vois ce qui était déjà là. Donc, un, il n'y a pas de nouveauté parce que c'est précisément c'était déjà là. Et deux, une fois que la chose est découverte, au sens propre, une fois que le voile a été retiré, elle est de l'ordre de l'évidence, cette chose-là. Eh bien, non, le christianisme ne nous bascule. Il n'est pas de l'ordre du seulement déjà là. Il y a un événement qui constitue une nouveauté, d'une part, et non, il ne nous bascule pas dans l'évidence. Une fois que la révélation a eu lieu, le Verbe s'est fait chair, il est mort et il est ressuscité, il y a bien pourtant continuation d'un dynamisme qui n'a pas été éteint par cet événement. Il y a une plénitude que nous attendons encore, c'est-à-dire que nous ne la possédons pas maintenant. Donc ça, c'était un premier élément des premiers éléments de commentaire, un premier ensemble de commentaires. Deuxième chose que je veux vous dire, c'est que le sujet actif de cet accroissement, de ce dynamisme ici-bas, ce n'est pas la hiérarchie d'abord. Le premier sujet actif de cet accroissement cité par le texte, dans l'ordre chronologique, hein, le premier sujet actif de cet accroissement de la révélation, c'est l'ensemble des croyants. Et comment l'ensemble des croyants sont-ils le sujet actif de cet accroissement de la révélation? Le texte vous le dit, eh bien, par la contemplation, par leur étude, par leur méditation dans leur cœur et dans leur intelligence intérieure. Par leur expérience spirituelle. Ensuite, vous avez la hiérarchie, avec la prédication de ceux qui, je cite le texte là, la prédication de ceux qui, avec la succession épiscopale, ont reçu un charisme certain de vérité. Et vous voyez que la hiérarchie vient en seconde position. Pourquoi ? Eh bien, parce que la hiérarchie ne possède ce charisme certain de vérité que elle ne le posséderait pas, plutôt, il faut mieux procéder dans ce sens-là, la hiérarchie ne posséderait pas ce charisme certain de vérité s'il n'y avait le sensus fidei fidelium, c'est-à-dire le sens de la foi de tous les baptisés. Et je rappelle que les membres de la hiérarchie, avant d'être des ministres ordonnés, sont des baptisés. Toujours le même document, Dei Verbum, document de 1965, mais au chapitre 11. Et ça va nous permettre de faire un pas. Nous allons maintenant parler de l'inspiration des Écritures et nous allons essayer de montrer que le sensus fidei fidelium s'est fait, hein, c'était le premier point. Et maintenant, nous passons à un deuxième point, l'inspiration des Écritures. Je vais essayer de vous montrer que ce que nous appelons inspiration des Écritures, c'est un cas particulier de sensus fidei fidelium. Les écrivains sacrés sont inspirés d'une manière qui se comprend à partir de la réalité du sensus fidei fidelium, même si le privilège qui est le leur est le leur, c'est-à-dire que le peuple des baptisés n'est pas en mesure de continuer d'écrire des textes qui prendraient place dans la reliure biblique. La rédaction de la Bible s'est achevée. Et donc, c'est une modalité particulière de sensus fidei fidelium qui relève de périodes données, les périodes de rédaction de l'Ancien Testament d'une part et du Nouveau Testament d'autre part. Et ces périodes-là sont révolues. N'empêche que ce qui s'est passé pendant ces périodes-là a une affinité, une parenté avec ce qui continue d'exister, à savoir le sensus fidei fidelium. On peut dire les choses autrement. L'inspiration des écrivains sacrés qui leur a permis de rédiger les textes bibliques est une sorte de culmination, de paroxysme, de réalisation particulièrement forte du sensus fidei fidelium. Alors, c'est quelque chose qui est très repérable dans le texte de Dei Verbum. Alors, on va commencer par le numéro 11 et puis après on reviendra un petit peu en arrière. Si ma mémoire est bonne, je crois que nous lirons ensuite le numéro 8. Voici ce que dit le numéro 11, ou le numéro 10, je ne sais plus, on va voir. Le numéro 11 en tout cas. Les réalités divinement révélées que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture y ont été consignées sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Notre Sainte Mère l'Église, de par la foi apostolique, tient pour sacrés et canoniques tous les livres, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, puisque rédigés sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Ils ont Dieu pour auteur et qu'ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même. Donc, qui est l'auteur de la Bible ? Dieu. Ils ont Dieu pour auteur. On poursuit. Pour composer les livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour que lui-même agissant en eux et par eux, il mise par écrit en vrais auteurs. Qui sont les auteurs de la Bible ? Les écrivains sacrés. Tout ce qui est conforme à son désir, et cela seulement. Donc vous avez un louvoiement du texte qui utilise le même mot, tantôt au singulier, tantôt au pluriel, à savoir le mot « auteur », lequel mot qualifie au singulier Dieu et au pluriel les hagiographes, c'est-à-dire les écrivains sacrés qui ont rédigé les textes de la Bible. Ce qui est très important, c'est qu'on vous dit qu'ils ont eu recours au plein usage de leurs facultés. C'est-à-dire que On vous donne ici à comprendre ce que ça veut dire quand on vous dit que Dieu a eu recours à eux pour être lui-même l'auteur de l'Écriture sainte. De quelle manière a-t-il eu recours à eux ? Pas du tout en les dépossédant de leurs moyens propres. Pas du tout en les plongeant dans une sorte de transe qui ferait que les auteurs sacrés ne seraient plus que des porte-plumes ou des porte-voix livrant entièrement passage à une entité qui ne serait pas eux, à savoir Dieu lui-même, parlant à travers leur bouche ou écrivant à travers leurs mains. Pas du tout. On vous dit, Dieu a eu recours à eux dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens pour que lui-même agissant en eux et par eux, ils misent par écrit en vrais auteurs. Donc, de quelle manière Dieu a-t-il agi par eux et en eux ? Eh bien, d'une manière, c'est paradoxal, hein, mais d'une manière qui est telle que, bah, précisément, les hagiographes ont écrit la Bible comme de vrais écrivains, c'est-à-dire en recueillant des sources, en réélaborant leurs sources, en faisant plusieurs versions, etc. En présentant leurs propos, en utilisant les formes de composition, les règles de la rhétorique, etc. Des règles qui ne sont pas, qui existent aussi dans le monde profane. Donc, de quelle manière Dieu a-t-il agi en eux ? Eh bien, d'une manière telle que ces hommes-là ont agi d'une manière qui est pleinement humaine. J'ouvre une petite parenthèse. Le paradigme de ce que je viens de dire là, le modèle de ce que je viens de dire là, c'est Jésus. Hein. Jésus est vraiment Dieu en étant vraiment homme. Je ferme la parenthèse. Donc, il mise par écrit en vrais auteurs tout ce qui était conforme à son désir et cela seulement. Je poursuis. Dès lors, puisque toutes les assertions des auteurs inspirés, alors de nouveau, vous avez le mot auteur au pluriel, ou hagiographe, doivent être tenues pour assertions de l'Esprit Saint, il faut déclarer que les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu, et là vous êtes repassé au singulier, a voulu voir consignée dans les lettres sacrées pour notre salut. C'est pourquoi toute Écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice, afin que l'homme de Dieu se trouve accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Voilà. Alors attention, hein, il faut tenir compte de tout ce que ce texte-là vous dit, c'est-à-dire précisément parce que les écrivains sacrés écrivent en étant en pleine possession de leurs moyens, comme des écrivains profanes, c'est-à-dire en recueillant des sources, en les élaborant, en les travaillant, en cherchant des effets de style, en répartissant leur matière dans les effets de style en question, etc., 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 eh bien, évidemment que ces mêmes écrivains sacrés sont tributaires des conceptions culturelles de leur temps. J'explique. Alors, on revient au dossier, le rapport entre révélation et science. De quelle nature est la vérité révélée ? Eh bien, pas de telle nature qu'elle entrerait en compétition avec la vérité scientifique. Donc, voici comment j'exemplifie ça ici. Pour les écrivains sacrés, il est évident, à leurs yeux, que la Terre est immobile. Ils n'ont aucune notion du mouvement terrestre, c'est-à-dire de la rotation de la Terre. Ils n'en ont aucune idée. Et donc, pour eux, non seulement la Terre est immobile, mais pour eux, à l'évidence, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Vous avez même un miracle de Josué qui fait reculer le Soleil. Donc, c'est très, très net. Pour les écrivains sacrés, la Terre est immobile et c'est le Soleil qui tourne autour d'elle. Mais ça, ce sont les conceptions de leur temps. Et c'est à l'intérieur de ces conceptions, par ces conceptions-là, que Dieu se révèle. En aucun cas, il ne s'agit de dire que la révélation porte sur ce point-là. Je continue. Dei Verbum 15. L'économie de l'Ancien Testament, dont je vous avais dit que ce serait 8 ou 10, j'ai tout faux. Les Verbum 15. L'économie de l'Ancien Testament avait pour raison d'être majeure de préparer l'avènement du Christ sauveur de tous et de son royaume messianique, d'annoncer prophétiquement cet avènement et de le signifier par diverses figures. Compte tenu, vous entendez ça, hein, le thème des figures, ça renvoie exactement à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les lignes d'accomplissement. Par exemple, Moïse est une figure du Christ. Donc, ou encore, l'alliance en Exode, l'alliance scellée avec le sang de l'animal dont on a aspergé et le peuple et l'autel après lecture du livre de l'Alliance, avec les clauses contractuelles, ceci aussi est une figure de l'Eucharistie à venir. Donc je reprends la lecture, donc de le signifier par diverses figures. Compte tenu de la situation humaine qui précède le salut instauré par le Christ, les livres de l'Ancien Testament permettent à tous de connaître qui est Dieu et qui est l'homme, non moins que la manière dont Dieu, dans sa justice et sa miséricorde, agit envers les hommes. Ces livres, bien qu'ils contiennent, et ça c'est très important, de l'imparfait et du caduc. Normalement, ça ne doit pas vous choquer si vous avez bien compris ce qu'on a lu tantôt. Et ce qu'on a lu tantôt, c'est quoi? C'est que Dieu se sert des écrivains sacrés pour dire ce qu'il a à nous dire, et précisément, il se sert des écrivains sacrés non pas en les dépossédant de leurs moyens, non pas en les réduisant à l'état de simples instruments, mais en parlant à travers eux dans leur propre schéma culturel. Et il est évident qu'une part de leur schéma culturel est imparfaite et caduque. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure, en aucun cas la révélation biblique ne nous imposerait de croire que la Terre est immobile et que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Alors là, je donne un exemple très trivial, mais il y a d'autres choses qui sont imparfaites et caduques dans l'Ancien Testament qui sont beaucoup plus engageantes sur le plan théologique. Bon, je continue. Ces livres, bien qu'ils contiennent de l'imparfait et du caduc, sont pourtant les témoins d'une véritable pédagogie divine. Alors, par pédagogie divine, vous pouvez traduire, encore une fois, explosion des catégories, ligne d'accomplissement, bref, ou dynamisme de la transmission, accroissement de la compréhension des vérités révélées, c'est tout ça cette pédagogie, c'est-à-dire cette pédagogie continue. Nous n'en finissons pas de passer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, des catégories du religieux à leur reconfiguration chrétienne, nous n'en finissons pas collectivement et personnellement. Si ce que je dis là vous surprend, repensez à l'exemple de tout à l'heure, Jésus est le Sauveur. À l'échelle d'une existence chrétienne, la compréhension d'un tel énoncé suppose beaucoup de déplacements et aussi de déconvenus, mais aussi de bonnes surprises. Je reprends la lecture. C'est pourquoi les fidèles du Christ doivent les accepter, les livres de l'Ancien Testament, avec vénération. En eux s'exprime un vif sens de Dieu. En eux se trouvent de sublimes enseignements sur Dieu, une sagesse salutaire au sujet de la vie humaine, d'admirables trésors de prière. En eux, enfin, se tient caché le mystère de notre salut. Ça, c'était le deuxième point. Donc, qu'est-ce que c'est que l'inspiration des Écritures? C'est une forme de sensus fidei fidelium poussée au maximum, où des hommes, dans la culture de leur temps, dans leur schéma culturel propre, dans leurs références culturelles, qui pour une part sont datées, imparfaites, caduques, etc., font l'expérience de Dieu d'une manière telle qu'elle est normative pour notre propre expérience de Dieu, restant sauf le fait que nous ne partageons pas entièrement les mêmes références. Nous ne vivons pas dans le même cosmos que les hommes de l'Ancien Testament. Notre cosmos à nous est un cosmos dans lequel c'est la Terre qui bouge autour du Soleil, qui tourne autour du Soleil. Donc, ce n'est pas tout à fait le même. C'est le même soleil, mais on n'a pas la même expérience du soleil que ceux de l'Ancien Testament. Et surtout, on n'a pas la même expérience de la terre. Nous ne sentons pas plus la terre bouger que les hommes de l'Ancien Testament ne la sentaient bouger. Simplement, nous savons, et nous apprenons ça dès très petits, nous savons que la terre tourne. Voilà. Et donc, nous ne l'habitons pas de la même manière. Le point 3, c'est l'Eucharistie. Je voudrais vous montrer dans ce point 3 que la célébration eucharistique, et alors maintenant nous allons nous raccrocher avec ce qui a précédé. Je voudrais vous montrer que la célébration eucharistique est le lieu où nous voyons converger tout ce que nous avons recueilli jusqu'à présent. C'est le lieu où nous voyons converger C'est le lieu où s'exprime en particulier le sensus fidei fidelium, la célébration eucharistique. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est le lieu où nous vivons le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Je vous rappelle qu'à la liturgie dominicale, la première lecture, sauf pendant le temps pascal, est toujours tirée de l'Ancien Testament. Et il n'y a pas de célébration de la messe sans une lecture d'un passage de l'Évangile. Donc l'Eucharistie est le lieu où s'opère, un lieu exemplaire où s'opère le passage de l'Ancien vers le Nouveau. C'est le lieu aussi où s'opère le prolongement de ce processus qui conduit à l'actualisation pour nous aujourd'hui. Nous l'avons vu tout à l'heure avec l'exemple de la préface de la fête de la Croix glorieuse. C'est le lieu où cette parole, qui est déjà passage, passe dans notre existence avec des actes qui sont très forts, très engageants. Par exemple, l'acte de communier. Et enfin, l'Eucharistie est le lieu par excellence où nous comprenons le schéma que nous répétons de plus en plus depuis les derniers cours, à savoir ce que Dieu a fait, il le fait maintenant, il le fera encore plus tard, en mieux. Schéma qui nous donne de comprendre carrément ce qu'est un sacrement. Alors c'est tout ça que nous allons voir avec ce point intitulé Eucharistie. Alors ce point, je vais l'illustrer avec un autre extrait de Dei Verbum 10 ce coup-ci. Voici ce que dit ce texte. La sainte tradition et la sainte écriture constituent un unique dépôt sacré de la parole de Dieu confiée à l'Église. En s'attachant à lui, le peuple saint tout entier, uni à ses pasteurs, reste assidûment fidèle à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La fraction du pain, c'est l'Eucharistie. Si bien que pour le maintien, la pratique et la profession de la foi transmise s'établit entre pasteurs et fidèles un remarquable accord. Je poursuis le texte, c'est toujours Dei Verbum 10. La charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu écrite ou transmise a été confiée au seul magistère vivant de l'Église. Alors, il faut bien comprendre ce qu'ils vous disent ici, c'est-à-dire interpréter de façon authentique, c'est-à-dire de manière contraignante. Mais reste sauf tout ce que nous avons vu préalablement, c'est-à-dire le magistère n'est pas le premier lieu d'approfondissement de la parole de Dieu. Le premier lieu d'approfondissement de la parole de Dieu, c'est le corps baptismal. Ici, il s'agit de l'interprétation authentique, c'est-à-dire contraignante. Donc, je reprends. La charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église, dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ. Pourtant, ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais il est à son service, n'enseignant que ce qui lui a été transmis, puisque par mandat de Dieu, avec l'assistance de l'Esprit-Saint, il, c'est le magistère, écoute cette parole avec amour, la garde saintement et l'expose aussi avec fidélité et puise en cet unique dépôt de la foi tout ce qu'il propose à croire comme étant révélé par Dieu. Et le paragraphe se termine ainsi. Il est donc clair que la sainte tradition, la sainte écriture et le magistère de l'Église, selon le très sage dessein de Dieu, sont tellement reliés et solidaires entre eux qu'aucune de ces réalités ne subsiste sans les autres et que toutes ensemble, chacune à sa manière, sous l'action du seul Esprit-Saint, elles contribuent efficacement au salut des âmes. Alors, ce qui est très important de repérer, c'est que l'Eucharistie qui est mentionné au début de ce paragraphe 10 de Dei Verbum sous la locution « fraction du pain », qui est une locution très ancienne que vous trouvez dans le Nouveau Testament, eh bien, l'Eucharistie est le lieu où nous voyons au mieux la finale de ce texte. Et quelle est la finale de ce texte? C'est de nous décrire non seulement la transmission de la révélation, mais carrément le dessein de salut de Dieu pour l'humanité, comme relevant d'un complexe dont les éléments sont indissociables. Et quel est ce complexe? C'est l'Écriture, la tradition et le magistère de l'Église en tant qu'arbitre terminal d'une réalité qui, pour le coup, relève du sensus fidei fidelium. Et quel est l'endroit où nous voyons au mieux ce complexe dont tous les éléments se tiennent les uns les autres? C'est la célébration de l'Eucharistie, c'est la messe. À la messe, vous avez absolument tout. Vous avez la Sainte Écriture qui va être proclamée, vous avez la Sainte Tradition, c'est-à-dire le commentaire de cette parole de Dieu et la célébration sacramentelle de cette parole de Dieu selon des formes définies, défini justement de manière contraignante par le magistère de l'Église, et vous avez le sensus fidei fidelium, c'est-à-dire la participation active des fidèles à partir en particulier de cet instinct qu'ils ont du Christ, de ce qu'il leur dit par leurs oreilles et dans leur cœur, dans l'Esprit Saint, et de ce qu'il fait pour eux. Ici, à la célébration de la messe, vous avez absolument tous les éléments. On continue, toujours avec l'Eucharistie, et ce coup-ci, on va aller voir Lumen Gentium. Alors, on va aller voir Lumen Gentium 33, qui est cité par le Vademecum à un autre endroit que je ne vous ai pas montré. Et puis ensuite, on lira Lumen Gentium 34, qui est un passage qui n'est pas cité par le Vademecum, mais qui, à mon avis, le prolonge. Donc, Lumen Gentium, c'est donc un texte du Concile Vatican II, c'est un texte de 64. Dans le numéro 33 et le numéro 34, on vous décrit une théologie des laïcs, une théologie du laïcat, que, en particulier, grâce au numéro 34 que nous allons lire juste après, en particulier, on peut qualifier cette théologie du laïcat comme étant une théologie eucharistique du laïcat. J'ouvre une parenthèse, non, l'Eucharistie n'est pas la chose des prêtres. Je ferme la parenthèse. Donc, nous avons affaire à une théologie eucharistique du laïcat. On va commencer par le 33, où c'est peut-être moins sensible, et dans le 34, c'est tout à fait spectaculaire. Voici ce que le texte nous dit. L'apostolat des laïcs est une participation à la mission salutaire elle-même de l'Église. Vous vous rendez compte, hein ? On avait déjà eu un énoncé comme ça tout à fait spectaculaire. Hein ? Une participation à la mission salutaire, pas seulement à l'annonce. Pas seulement l'annonce, mais le salut. Le salut. Alors, bien sûr que l'annonce a déjà un rapport avec le salut, mais vous dites quand même plus quand vous dites salut que lorsque vous dites mission, annonce. Hein. Je poursuis la lecture. À cet apostolat, tous sont désignés par le Seigneur lui-même, en vertu du baptême de la confirmation. Je dis la même chose autrement. Vous n'avez pas besoin d'une lettre de mission, d'un appel particulier de votre curé pour être détenteur de cet apostolat. Vous l'avez par le baptême, de facto. Je poursuis la lecture. Les sacrements, surtout la Sainte Eucharistie, communiquent et entretiennent cette charité envers Dieu et les hommes, qui est l'âme de tout l'apostolat. Les laïcs sont appelés tout spécialement à assurer la présence et l'action de l'Église dans les lieux et les circonstances où elle ne peut devenir autrement que par eux le sel de la terre. Alors ici, vous avez déjà une théologie eucharistique du laïcat, puisqu'on vous dit que c'est dans l'Eucharistie que les laïcs tirent l'énergie de leur apostolat, laquelle énergie est celle de l'amour, voilà, dans l'Eucharistie et la nourriture. N'empêche que la description qui vient par après est très fonctionnelle. Elle est très fonctionnelle, elle est vraiment de l'ordre du faire et elle vous est présentée comme comblant une lacune. C'est-à-dire qu'il y a des lieux où l'Église ne peut pas aller, alors c'est au laïc qu'il revient d'y aller. C'est un tout petit peu décevant et vous allez voir que le numéro 34 va beaucoup plus loin. Je poursuis. C'est-à-dire, je dis pourquoi c'est un petit peu décevant. Ce n'est évidemment pas l'esprit du texte. Mais il y a peut-être ici une certaine maladresse parce que quelqu'un qui ne serait pas au fait de l'esprit du texte et du concile pourrait interpréter le texte de la manière suivante. Quand un milieu qui jusqu'à présent était fermé à l'Église et donc ne pouvait être évangélisé que par le truchement des laïcs s'ouvre enfin à la réalité ecclésiale en question, à ce moment-là, on n'a plus besoin des laïcs et les curés s'en occupent. Et les laïcs, ici, pourraient être interprétés comme étant les avant-postes d'un clergé qui se tient en embuscade en attendant que les laïcs aient réussi à pénétrer le milieu en question. Ce n'est pas du tout l'esprit du texte. Ici, le texte se défend mal contre cette interprétation-là, et vous savez bien qu'on n'interprète jamais un texte à partir seulement d'un passage. Hein. Vous allez voir dans le numéro 34 que vous avez beaucoup plus que ce que vous dit ici le numéro 33. J'achève la lecture du numéro 33. Ainsi, tout laïc, en vertu des dons qui lui ont été faits, constitue un témoin et en même temps un instrument vivant de la mission de l'Église elle-même à la mesure du don du Christ. Alors le 34 maintenant, qui va plus loin. à ceux qu'il s'unit intimement dans sa vie et dans sa mission. Il, c'est Jésus, hein. On parle de Jésus là. Et ceux, c'est les laïcs. Et il se les unit par le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Vous avez vu que le sujet grammatical, c'est Jésus. On ne vous dit pas à ceux qui ont été désignés par les évêques et qui sont titulaires d'une lettre de mission, à ceux que le curé a appelés à faire partie de l'équipe baptême, de l'équipe deuil, de l'équipe catéchiste, etc. Non, on vous dit à ceux que Jésus s'est uni intimement à lui dans sa vie et dans sa mission par les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie qui habilitent de fait les baptisés en question. Je continue. Il accorde à ceux qui l'unit intimement dans sa vie, dans sa mission, il accorde en outre une part dans sa charge sacerdotale pour l'exercice du culte spirituel en vue de la glorification de Dieu et du salut des hommes. Vous entendez ça? Il accorde une part de sa charge sacerdotale à tous les baptisés, hein, Jésus, à tous les baptisés. C'est pourquoi les laïcs, en vertu de leur consécration au Christ, leur consécration par le baptême, hein, et de l'onction de l'Esprit-Saint, reçoivent, ici quand on vous dit consécration, on ne vous parle pas par exemple de la consécration du religieux ou de la religieuse, on vous parle de la consécration baptismale. Hein. En vertu de leur consécration au Christ et de l'onction de l'Esprit-Saint, ici on vous parle de la confirmation, reçoivent la vocation admirable et les moyens qui permettent à l'Esprit de produire en eux des fruits toujours plus abondants. Vous voyez, on n'est plus du tout dans la démarche un peu fonctionnelle, dans la description un peu fonctionnelle qu'on avait au numéro 33. On est dans un registre beaucoup plus profond, beaucoup plus mystique. Et on vous parle d'une éclosion, d'une fructification, d'une vitalité spirituelle et mystique profonde. Le texte poursuit. En effet, toutes leurs activités, leurs prières, leurs entreprises apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leur labeur quotidien, leur détente d'esprit et de corps. Vous voyez qu'on ne parle pas simplement des milieux auxquels les prêtres ont difficilement accès. On vous parle de l'intégralité de la vie du laïc. Hein. Il ne veut pas passer. Voilà. Donc, si tout cela est vécu dans l'Esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, pourvu qu'elles soient patiemment supportées, tout cela devient offrande spirituelle, agréable à Dieu par Jésus-Christ. Et dans la célébration eucharistique, rejoint l'oblation du corps du Seigneur pour être offert en toute piété au Père. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que les laïcs, en venant à la célébration eucharistique, font Eucharistie de tout ce qu'ils portent avec eux. Et que portent-ils avec eux? Leur existence entière, la leur propre, et tout ce que, avec leur existence, ils ont noué comme lien fécond, leurs liens familiaux, leurs liens professionnels, et même leurs liens de loisirs. Tout cela entre dans l'Eucharistie, rejoint l'oblation du corps du Seigneur. Et la finale, c'est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même. Et ça, c'est l'acte sacerdotal par excellence, hein. En quoi consiste l'acte sacerdotal? Il consiste à consacrer le monde à Dieu. Et c'est l'activité des baptisés. L'activité du prêtre, c'est de consacrer le pain et le vin. Et ici, c'est le sacerdoce ordonné. Mais le sacerdoce du baptisé, c'est de consacrer le monde, rendant partout à Dieu, par la sainteté de leur vie, un culte d'adoration. Ça, c'est vraiment un texte essentiel qui nous représente une théologie, ce que j'appelle une théologie eucharistique du laïcat. Alors, on finit, c'est la fin, on finit avec un retour au schéma général. Le schéma général, c'est très maladroit, c'est ce que vous avez sous les yeux. Donc la flèche verticale et descendante, c'est ce que Dieu fait, puis vous avez une flèche vers l'arrière et vers l'avant. Donc ce schéma général, vous pouvez le lire ainsi. Ce que Dieu fait maintenant, c'est ce qu'il avait déjà fait et c'est ce qu'il fera encore. Ou bien, ce que Dieu a fait autrefois, il le fait encore aujourd'hui, il le fera plus tard en mieux. Et bien, ce schéma vaut pour l'Eucharistie. Ce que Jésus... Alors, et de diverses manières. Par exemple, Jésus avait multiplié les pains, il a nourri une foule donnée et c'est tout. Aujourd'hui, il multiplie l'Eucharistie par toute la terre. Ou encore, Jésus avait institué l'Eucharistie pour ses seuls apôtres. Aujourd'hui, elle est célébrée pour nous tous. Ce que Dieu a fait, il le fait encore, il le fera plus tard. Il le fera plus tard. Qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie ? C'est l'habitation du Christ en nous, dans l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est que le ciel ? C'est l'habitation du Christ en nous, dans l'Esprit Saint. Le ciel a une qualité eucharistique. Vous l'avez dans l'Épître aux Éphésiens. Un jour, Christ sera tout en tous. Vous l'avez dans le livre de l'Apocalypse. Le Christ nous invite à sa table et il nous servira et il s'assiera à notre table tout près de nous. Le ciel a une qualité eucharistique. Ou encore, toujours l'Eucharistie comme lieu où ce schéma général se vérifie. Comment se rédige la Bible ? Eh bien, on a dit par une sorte d'extension qualitative, d'accroissement qualitatif du sensus fidei fidelium, qui permet à des auteurs inspirés de se saisir de diverses sources et de le réconfigurer à partir de ce que Dieu a fait pour eux. Alors, par exemple, ce sont des vrais auteurs, ils connaissent l'épopée de Gilgamesh que nous avons déjà vue ensemble, qui est une épopée païenne, babylonienne, et en plus qui relève d'une religiosité polythéiste, donc c'est pas du tout cachère. Ils vont se saisir de ce texte fameux et ils vont le reconfigurer radicalement en fonction de ce que Dieu fait pour eux. Et que fait Dieu pour eux ? Tout sauf ce que les dieux font à Gilgamesh. Que font les dieux à Gilgamesh ? Ils veulent l'éloigner. Que fait le Dieu biblique ? Il se préoccupe de savoir comment il va restaurer avec l'humanité la familiarité des origines qui a été perdue. Voilà. Donc, ce que Dieu fait pour l'écrivain sacré lui permet de reconfigurer ce qui précède culturellement, ça c'est la flèche vers l'arrière, et le tourner vers l'avenir. Ce que Dieu a fait, il le fera encore. Pensez à 2 Maccabées 7. Vous vous rappelez cette femme-là qui fait une catéchèse sur la résurrection de la chair au moment où on met à mort, où on martyrise ses 7 fils. Ce que Dieu a fait, il le fera encore. Il a tout créé de rien et donc il vous ressuscitera. Ça, c'est l'expérience de l'écrivain sacré qui préside à la rédaction de l'Ancien Testament, qui préside à la rédaction du Nouveau Testament, pensez aux lignes d'accomplissement, qui préside à la réalité liturgique, pensez à la préface de la Croix glorieuse, qui préside à notre cycle de lecture, pensez au fait que dans chaque messe dominicale, on a l'Ancien Testament puis le Nouveau, qui préside à notre expérience spirituelle intime. C'est-à-dire, je n'en finis pas de laisser le récit, la mémoire transmise, cultivée de ce que Dieu a fait et fait maintenant, je n'en finis pas de laisser cette mémoire de ce que Dieu a fait être poursuivre sa reconfiguration à partir de ce qu'il fait maintenant et fera plus tard. Ou encore la nature eucharistique, la nature du sacrement. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement ? C'est un signe, un symbole mémorial dans lequel Dieu agit maintenant. Donc à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous faisons mémoire symboliquement de ce que Jésus a fait lui-même, puisque c'est lui qui a institué l'Eucharistie, mais dans ce symbole mémorial, il agit maintenant, lui. C'est ça un sacrement, hein ? Vous retrouvez le même schéma. Donc quel est ce cœur où se réalise cette sorte d'étrange, comme une fusion nucléaire, reconfigurant l'anthropologie, l'expérience religieuse, les sources, les thèmes du religieux comme sacrifice, etc. Quel est ce centre autour duquel nous tournons ? Le précédent résumé du cours numéro 3, vous disiez, dans la foi, ce centre, c'est Dieu qui agit. Aujourd'hui, le pas supplémentaire que nous faisons consiste à dire le lieu, je vais être un peu redondant, le lieu où ce lieu se repère, le lieu le plus fort repérable de cet agir de Dieu, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est aussi, encore une fois, le lieu du sensus fidei fidelium, c'est-à-dire le lieu de, cette compréhension, cet accroissement actif de ce que Dieu nous donne. Alors, je vous ai mis un exemple de cela, mais on n'a pas le temps de le lire, vous le lirez par après. Donc, je vous ai mis l'intégralité de l'épisode des pèlerins d'Emmaüs. Voilà. Ce sont les dernières planches, et le cours 5 finit avec ça, il ne restera plus qu'à lire le résumé. Donc, je vous ai mis l'intégralité de l'épisode d'Emmaüs, et le récit d'Emmaüs, c'est une théologie de ce que je vous dis là. Donc, vous avez deux pèlerins qui sont tout déçus parce qu'ils avaient compris que le Christ serait sauveur d'une autre manière que celle selon laquelle il l'est réellement. Et donc, ils s'attendaient à ce qu'il restaure la royauté en Israël. Ce n'est pas le cas. Il a été crucifié. Ils s'en vont tout tristes. Jésus fait chemin avec eux, les conduit à une relecture de leur catégorie en leur faisant raconter ce qui s'est passé, les conduit à une relecture du texte révélé, du texte inspiré, et il leur ouvre les yeux à cette parole de Dieu, les conduit à l'auberge où il va réaliser le geste eucharistique de la fraction du pain. C'est là que leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont retourner à Jérusalem raconter aux apôtres ce qui s'est passé. Et ici, vous avez le charisme certain de vérité du corps épiscopal, si je puis dire. C'est un tout petit peu anachronique, mais on va dire que c'est cela en germe. C'est-à-dire, vous avez la confirmation hiérarchique d'une expérience qui relève du sensus fidei fidelium de deux pèlerins chrétiens qui ont vécu une véritable conversion alors qu'ils étaient déjà chrétiens, qui ont vécu une véritable conversion parce que toutes leurs références, sans disparaître, sans être annihilées, ont été complètement reconfigurées, que ce soit leur expérience existentielle des événements vécus avec Jésus de Nazareth, ou que ce soit leur lecture des Écritures, ou que ce soit leur rapport à l'Eucharistie. Mais c'est ce qui se passe à la messe, pour nous. Voilà. Donc vous comprenez bien que oui, en un sens, la révélation est close, mais en un autre sens, elle ne l'est pas. La révélation est close en ce sens que on ne peut pas continuer d'ajouter des pages à la Bible parce que la Bible et l'expérience normative est garantie et elle est ce qu'elle est. Mais, si je puis dire, il y a pourtant une sorte de prolongement de ce que la Bible nous décrit et c'est chacune de nos existences. Donc, le livre en tant que tel, on ne peut pas en augmenter le nombre de pages, mais en revanche, pour nous, il ne s'agit pas seulement de le lire et de le connaître, mais il s'agit de le comprendre de telle manière que nos propres existences sont comme les pages qui lui manqueraient si nos existences n'étaient pas converties. Alors, je vous lis le dernier résumé. Ah, attendez. Est-ce qu'il est le dernier résumé? Alors normalement, le dernier résumé, il doit s'emboîter dans les précédents. Hein. Normalement. Alors non, c'est pas ça. Attendez. Clac, clac. Voilà, c'est ça. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous le transférer. C'est quand même pas très... Comment on appelle ça ? C'est quand même pas très fluide, hein, ces outils Zoom. Voilà. Alors, Martine, ça tombe sur vous parce que je vous vois. Vous pourriez mettre votre micro, s'il vous plaît, et vous me dites quand ça apparaît à l'écran, parce que là, j'ai besoin qu'on le lise tous ensemble. Est-ce que ça apparaît à l'écran?
Ça y est.
Ça y est? Oui. Vous l'avez à l'écran ou pas?
J'ai l'écran, mais pas complètement. Il y a des photos à droite.
Ah, voilà. Vous comme moi, alors. Alors, je ne sais pas comment on peut virer... Ah, si, vous avez en haut... Il y a une petite barre qui surmonte la bande de photos. Vous avez une série de symboles, une petite barre, et puis un rectangle un peu plus épais, puis deux petits rectangles superposés, et puis plein de petits carrés qui forment un carré. Vous voyez ?
Petit carré, oui.
Voilà. Si vous appuyez sur la barre verticale, qui est tout à fait à gauche, ça ferme, oui. Ça ferme les photos.
Ce qui est la vignette. Voilà, c'est le... ouais, voilà, ça y est, ça y est.
Voilà. Donc, normalement, vous avez le résumé en entier.
Oui.
Alors, dans ce résumé des cours 4 et 5, je reprends le dernier pas que nous avons fait, mais j'emboîte avec ce que nous avons déjà parcouru. Donc, il y a des choses que je répète. Donc, voici ce que ça donne. La révélation est de nature d'abord relationnelle. Dieu vient à nous. Il y a donc lieu de parler d'un événement de révélation ou d'une geste divine de la révélation, c'est la même chose, hein, où l'événement renvoie à des faits interprétés en fonction de l'intention relationnelle divine, notre salut. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans la Bible, et même dans le Nouveau Testament, vous n'avez jamais affaire à des faits bruts. Vous avez toujours affaire à des faits qui sont interprétés en fonction de l'intention de Dieu. Mmh. Et quelle est l'intention de Dieu? C'est de nous sauver. Et cette intention relationnelle divine, qui est notre salut, eh bien, nous en avons connaissance, mais cette connaissance s'approfondit au cours des âges. C'est pourquoi le témoignage de cette geste, c'est-à-dire les Écritures inspirées, a principalement la forme d'un récit. La Bible raconte cela. Elle raconte dans le sensus fidelium d'un peuple qui s'accroît au long de l'histoire, d'un peuple qui fait l'expérience que Dieu vient au-devant de l'humanité et que dans cette venue de Dieu au-devant de l'humanité, il y a des faits et des paroles qui s'interprètent réciproquement et qui ouvrent pour nous un chemin de salut dont nous ne cessons pas d'approfondir la compréhension, la connaissance. Et donc, nos existences prolongent ce récit, c'est-à-dire nos existences sont comme des pages qui manqueraient, si je puis dire, à la Bible si nous n'étions pas là pour lui donner corps. Je continue. Cette venue de Dieu à l'homme ne cesse de provoquer une reconfiguration du religieux, les sources, les thèmes, l'anthropologie, etc. Cette reconfiguration est en même temps l'expérience récurrente suivante. Ce que Dieu a fait, il le fait encore aujourd'hui et il le fera demain en mieux. Ou encore, ce que Dieu fait maintenant, c'est ce qu'il a fait jadis, promesse de ce qu'il fera demain. Ce schéma récurrent est une clé non seulement du processus de rédaction de la Bible, c'est comme ça qu'elle s'écrit, à partir de la perception de ce schéma. Donc c'est une clé de compréhension de la manière dont la Bible a été écrite, mais encore une clé de compréhension de la structure liturgique de la messe, avec la liturgie de la parole, Ancien Testament, Nouveau Testament, et le rapport entre cette liturgie de la parole et le sacrement de l'Eucharistie, où on passe de la mémoire à une mémoire qui fait corps, voilà, qui s'actualise dans le geste, dans le corps. Et puis, enfin, c'est une clé de la nature du sacrement, qui est un agir divin dans le symbole mémorial, et c'est une clé de l'expérience chrétienne d'aujourd'hui, le sensus fidei. Pourquoi y a-t-il un sensus fidei? Mais parce que Dieu continue de venir à nous. Voilà, c'était le mot de la fin. Ceux qui ont 5 minutes et qui ont des questions, vous pouvez les poser. Ceux qui veulent partir, vous pouvez partir. Je vous souhaite une très bonne continuation. N'oubliez pas de vous inscrire pour la suite. Là, c'était la révélation. La suite, ça va être le Christ maintenant, avec Bernard Clazen, à partir essentiellement de l'histoire de l'art. Et donc, prolonger ce cours avec le cours de Christologie de Bernard Clazen me paraît particulièrement indiqué. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire. Ceux qui veulent partir tout de suite, bonne continuation pour la suite. Merci de votre patience. Et ceux qui veulent rester un peu pour poser des questions, je peux leur accorder 5 minutes. Alors, par exemple, Laurent Olmedo, ouvrez votre micro et posez votre question, s'il vous plaît.
Bonjour. Non, je n'avais pas de question. Je me suis simplement contenté d'applaudir. Ah, et vous dire toute la lumière qui transparaît dans, en tout cas de mon point de vue personnel, dans les cours de ce trimestre. Personnellement, ça m'a beaucoup éclairé.
Ah, c'est très
sur
gentil.
Certaines choses que je sentais confusément. Ça a permis de mettre des mots dessous et surtout de structurer une réflexion. Donc pour ça, je vous en remercie.
Merci beaucoup.
Moi, je vous remercie aussi. Je dis au revoir à tout le monde.
Au revoir.
Et merci beaucoup.
Au revoir. Bon, ben j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Alors, pour reprendre le cours, les résumés devraient suffire. tout le reste, ce que j'appelais le squelette, maintenant vous pouvez vous en débarrasser. Le squelette, vous n'en avez plus besoin. Vous avez besoin de me suivre pour comprendre les résumés, mais maintenant que c'est fait, les résumés suffisent, je crois. Bonne continuation à toutes et à tous et merci de votre patience. Au revoir.